Nous sommes de retour en compagnie de Raphaël Rey, qui est donc le coordinateur de l'ODAE, l'Observatoire du droit d'asile et des étrangers romands. Alors Caro, à toi la parole.
Oui, donc moi je me demandais comment se situe la Suisse au niveau international puis au niveau européen par rapport à ses pratiques, comment elle interagit avec les étrangers.
Ok, du coup je parle en général ou plutôt par rapport aux Érythréens et Érythréennes selon le rapport.
Peut-être les deux, peut-être en général et puis par rapport aux Érythréens.
Je dirais comme ça que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne parce que voilà, on sait bien qu'elle ne fait pas partie. Mais pour tout ce qui est politique migratoire et d'asile, elle est un peu dans la droite ligne de ce qui se fait au niveau européen. Elle participe complètement à des systèmes comme Dublin pour ce qui est de l'asile, à différentes pratiques communes de l'Europe. Et bien sûr, elle est signataire des accords sur la libre circulation aussi, ce qui fait qu'elle est vraiment, elle est dans la même ligne. Après, si on va plus spécifiquement sur le dernier rapport qu'on a sorti, et puis qui s'intéresse en fait aux ressortissants érythréens et érythréennes en Suisse, on peut dire que là, peut-être que par rapport à cette communauté, on va dire, elle se démarque un petit peu. Je ne peux pas dire que c'est la seule à prononcer des décisions de renvoi pour ces personnes, mais il y en a quand même très peu en Europe qui le font. Et en tout cas, quand elle a commencé à le faire en 2016-2017, elle s'est vraiment démarquée par rapport à des taux d'acceptation d'asile qu'il y avait en Europe.
Merci.
Caro?
Moi, j'aurais une question, mais c'est dans une autre veine, mais pour la rédaction des rapports, c'est toi qui es responsable de toute la rédaction des rapports ou comment ça se passe?
Alors, en gros, oui, si on veut, en fait, comme il y a un poste salarié et un ou une stagiaire qui est aussi salarié, mais qui change tous les 6 mois, moi, je m'occupe du fond et de la forme de l'observatoire, c'est-à-dire la gestion de l'association d'un côté, et puis après tout ce qui est contenu. Et dans le contenu, il y a les rapports, il y a les cas, il y a les brèves, ce que les trois les activités que j'ai mentionnées. Et par contre, le contenu, il est toujours décidé et il est toujours travaillé avec mon comité, avec le comité de l'association. Et puis, en fait, tout ce qu'on publie, tout ce qu'on sort est relu. J'ai oublié de parler de ces personnes, mais on a aussi des relectrices, relecteurs qui sont d'autres spécialistes du droit d'asile et du droit des étrangers qui vont venir relire toutes nos publications pour vérifier si ce qu'on dit est juste, est vrai, si les différents articles de loi, les différentes jurisprudences mentionnées sont les bonnes, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, il y a quand même ce travail de vérification de l'info qui se fait.
Parce que j'imagine, pour faire ce travail-là, tu as dû, dans tes cours, dans ton parcours universitaire, avoir des cours de droit, j'imagine.
J'ai eu des cours de droit d'asile et droit d'immigration, surtout dans mon master en migration et citoyenneté. Et puis après, il y a quand même beaucoup de choses, une fois qu'on s'est un peu habitué au vocabulaire du droit et à la... on va dire au monde du droit, la logique du droit. J'ai aussi fait du bénévolat à Elisa Asile, qui est une association à Genève, où en fait c'est aussi beaucoup en faisant qu'on apprend.
Et puis, est-ce que vous travaillez étroitement avec Saint-Gaël et Pibert
J'avais oublié de parler de ça. Alors, on travaille pas étroitement. On publie les cas des uns et des autres. L'observatoire de Saint-Gall, il a un peu changé de manière de faire, donc on est moins en relation avec eux. Avec Berne, en fait, on se parle assez régulièrement pour se maintenir au courant de ce qu'on fait, de l'actualité, de quelles thématiques on va aborder, de si on a des situations qu'on peut transmettre à l'observatoire bernois et vice versa. Donc on est en contact régulier, mais on travaille vraiment de manière...
Puis à Genève, au niveau des bénévoles, vous êtes nombreux. Enfin, pas vous, mais je veux dire, en général, les bénévoles qui travaillent avec toi, vous êtes nombreux.
Alors, comme je disais, les bénévoles, si on parle du comité, il est représentatif de toute la Suisse romande. Et puis, il y a entre 9 et 10 personnes dans le comité. après des personnes bénévoles, si on veut, tous les juristes qui nous transmettent des situations ne sont pas forcément bénévoles au sens de... Ils travaillent en tant que juristes, sans salarié, mais pour l'observatoire, ils sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils nous transmettent des cas...
Et puis, est-ce que c'est difficile de coordonner des personnes qui sont pas salariées parce qu'ils ont moins le temps, ils ont une vie professionnelle à côté, est-ce que c'est quelque chose qui rend le fonctionnement de l'association plus compliqué?
Alors, parfois ça arrive. Après, comme je disais, c'est pas vraiment qu'on travaille avec des bénévoles, mais c'est sûr que les personnes qui nous transmettent des cas, ben, en fait, ils ont un travail de juriste ou... il y a des délais de recours où ils ont énormément de cas, enfin, dans toutes ces associations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de situations à défendre et qu'ils ont souvent pas forcément le temps de faire et leur boulot et en plus de se dire « Ah, je vais transmettre ce cas à l'observatoire ». Donc, c'est sûr qu'on doit aussi beaucoup les appeler, leur écrire des mails pour leur demander s'ils ont des informations sur telle ou telle thématique.
Et puis, si vous êtes confronté à des cas où on pourrait faire appel ou à la Cour internationale des droits de l'homme, enfin, Cour européenne des droits de l'homme, comment est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous redirigez les gens vers des avocats qui pourraient les inciter ou comment ça se passe?
Alors, pour tout ce qui est au niveau national, il y a les différents juristes que j'ai mentionnés. Mm-hmm. Et puis après, il y a une association, par exemple, qui s'appelle CSDM à Genève, qui, eux, s'occupent spécifiquement de porter des cas devant les cours internationales, d'accompagner les juristes pour porter des cas devant la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité contre la torture.
Alors, moi, je voulais revenir, effectivement, merci beaucoup, Caro, sur la rédaction de ce rapport. Comment est-ce qu'on collecte les informations? Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont fiables? Et comment est-ce qu'on les vérifie? Alors, est-ce qu'il y a effectivement des sortes de lanceurs d'alerte, des personnes sur lesquelles vous comptez? Premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est effectivement sur la rédaction. Tu le disais, tu gères un petit peu tout, le contenu et le contenant. Est-ce que ça, c'est pas une grosse responsabilité? Et de quelle manière est-ce que tu es assisté par d'autres personnes? Sachant que voilà, typiquement, on sait qu'il y a, par exemple, des revues qui ont des revues à comité de rédaction pour ne pas se tromper. Parce que j'imagine qu'effectivement, même dans la sémantique, quand on est dans le droit, eh ben, on doit être précis. Et notamment quand on est en lien avec un tribunal ou des choses comme ça, il faut être extrêmement précis.
Alors, pour ça, je dirais une réponse assez rapide. Pour ça, il y a le comité de l'ODA et Roman. Et en fait, c'est, comme je disais, c'est vraiment des personnes qui travaillent sur le terrain, je mets des guillemets, mais qui défendent quotidiennement des personnes. Et puis, ce sont eux qui vont dire, oula, là, c'est eux les lanceurs d'alerte, si on veut. C'est eux qui vont dire, là, il y a telle thématique, il faut faire quelque chose, parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus d'Érythréens, d'Érythréennes qui reçoivent des décisions négatives. Ensuite, le travail, toute la matière première, elle m'est fournie par les différents correspondants, par mon comité. Moi, je vais en faire quelque chose, c'est-à-dire essayer de simplifier ces informations qui sont souvent très juridiques, en faire un cas, en faire un rapport. Et puis, c'est de nouveau le comité et les relecteurs, relectrices que j'ai mentionnés avant, qui vont relire ces cas. Et puis, en fait, comme je l'ai dit avant, moi, je suis pas juriste de profession, donc j'ai des bonnes connaissances en droit d'asile, en droit des étrangers, mais je pourrais pas travailler sans ces juristes qui viennent et qui relisent et qui vérifient l'information.
Donc voilà, on peut dire que les informations qui arrivent sont, quoi qu'il en soit, fiables et qu'elles sont le fait de spécialistes, et puis qu'ensuite elles sont traitées et relues pour qu'effectivement on évite toute confusion ou toute erreur par la suite, quoi.
Et puis après, la deuxième question, c'était entre le contenu et le contenant. Et c'est sûr que, voilà, c'est aussi dû aux moyens qu'on a et on fait ce qu'on peut. Mais c'est sûr que des fois, quand on passe du temps à gérer la base de données des membres et les liens avec les membres, c'est du temps qu'on n'a pas forcément pour travailler le contenu et vice-versa. Donc c'est toujours un peu un jeu d'équilibriste pour arriver à gérer le tout et à quand même essayer de sortir de la documentation et de produire de la documentation le plus régulièrement possible. Ouais. C'est sûr qu'avec plus de moyens, on aurait peut-être plus de visibilité et plus de contenu, en fait.
Bien sûr. Alors le rapport sur le durcissement à l'encontre des Érythréennes et des Érythréens, pardon, il est donc disponible en PDF. Hein, tout le monde peut le télécharger sur le site de l'Odaïe Roman, www.odaeroman.ch. Voudrais-tu nous dire, l'Érythrée, est-ce un cas particulier ou est-ce que c'est d'une certaine manière quelque chose que l'on rencontre à plusieurs reprises? Ou est-ce que, en ce qui concerne l'Érythrée, on a une situation un peu particulière, occultée, ignorée ou quoi? Ou est-ce que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne à chaque fois? Je veux dire, est-ce que les processus se reproduisent?
Alors, c'est de nouveau une question. Alors, il y a des éléments qui sont spécifiques à l'Érythrée, dans la manière d'évaluer la situation dans le pays, dans tout le processus politique, politico-légal qui a mené à une certaine ouverture et acceptation des personnes à des resserrements et des durcissements. Mais après, à travers l'exemple érythréen, c'est sûr qu'on ne parle pas seulement de cette communauté spécifique, mais du droit d'asile au sens large en Suisse. Et si on veut, on est passé d'une situation où, je dirais en 2005, beaucoup d'Érythréens, suite à une jurisprudence du tribunal, la plupart des personnes qui fuyaient l'Érythrée se voyaient accorder l'asile en Suisse. Il y a eu différents types de durcissements légaux, durcissements jurisprudentiels qui font que maintenant il y a quand même beaucoup plus de personnes qui reçoivent des décisions négatives. Et en fait, à partir du moment où on décide que on va pas accepter tout le monde, je mets ça de nouveau en guillemets parce que ça n'a jamais été le cas. Les personnes, elles se retrouvent à une administration, à un peu une culture institutionnalisée du soupçon qui va faire que c'est encore plus difficile d'obtenir l'asile en Suisse. Mais ça concerne pas seulement, il y a plein de dynamiques qui concernent pas seulement les Érythréens et les Érythréennes, mais qui sont représentatives de la manière dont sont traités les demandeurs d'asile en Suisse.
D'accord. Donc des fois on peut presque dire que des fois on a l'impression de se confronter à une grille de lecture qui est tout le temps la même et qui se reproduit automatiquement. Il y a une sorte de mécanisation des décisions qui est angoissante et qui fait peur d'une certaine manière, parce que là on est en dehors complètement de l'affect. Alors je dis pas qu'il faut que l'affect domine, mais en tout cas qu'il soit présent.
C'est sûr que j'ai de la peine un peu avec ce genre de c'est difficile de parler d'une dynamique pour parler de tout ce qui se passe dans le droit d'asile et dans le droit des étrangers. Mais en l'occurrence, c'est sûr que il y a un peu quatre grandes rationalités qui traversent le droit d'asile, qui sont les rationalités sécuritaires, économiques, humanitaires, et puis ce que je dirais un peu on peut l'appeler un peu bureaucratico-légal, et que c'est pas forcément des rationalités qui vont vers plus d'ouverture qui sont prédominantes en Suisse depuis environ 30 ans. Mmh. Donc du coup, il y a ces idées économiques, sécuritaires, un peu rationnelles, bureaucratiques qui sont prédominantes et qui marquent tout le domaine de l'asile.
Ouais. Alors ce rapport, il est paru maintenant, il est disponible, on peut le lire. Pourquoi faire et à qui est-il destiné?
Alors ce rapport, il est destiné, on va dire, à tout le monde, mais surtout à tout le monde qui s'intéresse à ces questions. Nous, ce qu'on fait, et l'idée de l'Observatoire, c'est de produire un rapport qui est comme ça, qui essaie de donner, qui essaie de parler d'une situation, de montrer une problématique, de décrire des faits. Et après, l'idée, c'est que ces rapports servent de, j'aime pas trop ce terme, mais de munitions pour différentes actions, pour différentes luttes, et qu'ils soient repris et qu'ils viennent soutenir, en fait, différents types d'actions.
Ouais. Donc, on peut, d'une certaine manière, vous solliciter pour éventuellement même des compléments d'informations, ou en tout cas pour expliquer ce que vous faites, tout ce travail-là d'observatoire.
Ouais, tout à fait. On est là pour ça. Voilà, par exemple, il y a différents groupes de soutien, soit de groupes de soutien aux personnes déboutées, soit de groupes de soutien justement aux personnes érythréens et érythréennes avec qui on est en contact et puis qui peuvent utiliser ce type de publication pour ensuite venir soutenir leurs revendications, venir soutenir leur discours. En fait, c'est aussi ça l'idée, c'est de donner un peu une information qui permet de soutenir des luttes.
Ouais. Qu'en est-il des masses médias? Est-ce que tu observes qu'ils sont plutôt preneurs de ce type d'informations ou c'est un petit peu compliqué? Et puis, quelle est la relation, si vous en avez, avec les grands médias de Suisse?
Je dirais que c'est un peu compliqué puis que ça dépend. En fait, voilà, les médias ont toujours un peu... je dirais que si on tombe pas dans un moment où il va y avoir une votation sur des questions d'asile ou une votation sur des questions de droits des étrangers, bah disons que voilà, ce dernier rapport, c'est pas que il a été repris, il y a une dépêche ATS, il a été repris dans certains médias, mais c'est pas que ça fait la une de tous les journaux. Et puis parce que on est dans une période où il y a d'autres sujets d'actualité, il y a d'autres questions en cours. Après, voilà. En plus, on peut encore marquer une différence en tout ce qui concerne l'asile, qui est quand même beaucoup plus médiatisé, de tout ce qui concerne le droit des étrangers, qui en fait concerne beaucoup plus de monde. Quand je parle du droit des étrangers, c'est au sens large, quoi. Les Européens et les non-Européens, ça concerne beaucoup plus de monde en Suisse, mais c'est quand même très peu médiatisé.
Ça, j'imagine que tu le regrettes et qu'il y aurait quelque chose à faire de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, peut-être que peut-on dire que les médias font un petit peu défaut dans ce cas-là, ou selon toi, c'est bon, bah, c'est comme ça, et puis il va falloir faire différemment.
Peut-être qu'ils font un peu défaut, enfin, peut-être que ça fait un peu défaut des fois de pas avoir une plus grande exposition médiatique, mais en même temps, la surmédiatisation des questions liées à l'asile, ça fait pas toujours dans le bon sens, dans le sens où c'est beaucoup des discours qui peuvent aller, voilà, de la lutte contre les abus, de préserver de faire en sorte qu'il y ait de personnes possibles qui viennent. C'est souvent ce type de discours porté par certains partis politiques ou même voilà, le discours un peu bureaucratique, rationnel des administrations qui est porté, et puis je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien.
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a entendu. Je voulais avoir juste ton commentaire, enfin si tu as envie, à ce propos-là, c'est qu'effectivement certains sujets sont délicats et impliquent un rapport de force qui est extrêmement complexe et que l'on ignore pour une grande partie, et que donc du coup il vaut mieux ne pas parler de certains cas pour qu'ils puissent être d'une certaine manière résolus, en tout cas que l'on puisse avancer sur des questions délicates, parce que ce sont des informations, voilà, en tout cas des échanges qui se font dans des salons un peu privés, un peu occultes, et que du coup, eh bien, l'idée c'est de ne pas trop en parler pour que ces choses-là se fassent dans une sorte de diplomatie grise. Est-ce que tu as entendu parler un petit peu de cas comme ça ou pas?
Bien sûr qu'il y a différentes voilà, il y a différentes stratégies quand il s'agit de défendre des personnes. Eh ben, il y a différentes possibilités, il y a différentes stratégies. Il y a des stratégies simplement d'essayer de lutter sur le terrain du droit, c'est ce que font les juristes. Après, il y a des fois des possibilités, comme je disais, on en a parlé de la marge de manœuvre des autorités. Elles ont une certaine marge de manœuvre, donc du coup il y a des négociations qui sont possibles, mais je pense qu'à un moment donné il est de toute façon nécessaire de pouvoir montrer qu'il ne s'agit pas que de situations individuelles, il ne s'agit pas que de cas isolés, et puis qu'il faut pouvoir montrer qu'il y a des problématiques larges qui sont présentes, et c'est quand même important de pouvoir en parler, de pouvoir les dénoncer et de pouvoir faire quelque chose à un niveau plus collectif.
En tout cas, voilà, c'est le travail auquel vous attelez avec ce rapport, avec ces différents rapports que vous produisez. Voilà, ce sont des ressources que vous invitez les ONG, les associations, les individus à se saisir pour par la suite, eh bien, s'actionner d'une certaine manière.
Tout à fait.
Alors, écoute, moi j'arrive au bout des petites questions que j'avais. Caro, est-ce que tu as des questions ?
Moi, je trouve très complet. J'ai plus.
Alors, bon, ben écoute, alors je pense qu'on va doucement terminer là, mais bien entendu, non sans te remercier déjà, mais avant tout, sans te dire, cher Raphaël, s'il y avait des questions auxquelles que l'on ne te l'avait pas posées, auxquelles tu aurais souhaité répondre, eh bien, lesquelles seraient-elles? Voilà. Y aurais-tu des choses à dire que l'on a omis et qui seraient vraiment importantes de dire?
Non, ben, en fait, j'ai pas forcément. Enfin, je vous invite bien sûr à visiter le site internet, à aller voir les différents types de voilà, de documentation qu'on a. Et puis surtout, je voulais aussi dire que, ben, en fait, on est un observatoire qui se veut pour toutes et tous. Et donc, si n'importe, il n'y a pas que des juristes qui nous signalent des situations, il n'y a pas que des juristes qui peuvent nous contacter. Tout le monde est bienvenu pour nous contacter. Dès que vous voyez des situations que vous jugez intolérables, qui sont liées au droit d'asile, au droit des étrangers, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse les documenter et on puisse faire quelque chose.
Extrêmement important. Donc, à toutes les personnes, eh bien, on lance cet appel-là. Si vous observez des situations complexes, délicates, problématiques, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet et un formulaire de contact. Le site internet, c'est www.odae-roman.ch. Raphaël, merci beaucoup. Donc, tu es le coordinateur
Merci
de
à vous.
l'ODAE Roman. J'espère que c'était bien pour toi, que c'était intéressant et que tu as pu apporter les réponses que tu souhaitais apporter.
Merci beaucoup.
Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans un travail difficile, mais ô combien essentiel.
Merci beaucoup
Et
et vous
puis,
aussi.
voilà, merci à toi. Et puis, je pense qu'on va évidemment se retrouver le long de nos pérégrinations en ce qui concerne le droit d'asile et le droit des étrangers.